Alors, docteur Laura Schlesinger était connue aux États-Unis en tant qu'animatrice radio. Son travail consistait à donner des conseils aux auditeurs sur divers sujets. Et un jour, lors d'une émission, elle a condamné l'homosexualité sur la base d'un passage du Lévitique, Lévitique 18, verset 22. Et peu après cette émission-là, une lettre ouverte lui a été adressée et a beaucoup circulé sur Internet. Je vous la lis. Cher docteur Laura, merci de vous donner tant de mal pour éduquer les gens selon la loi de Dieu. Votre émission m'a beaucoup appris et j'essaie de partager ces connaissances avec le maximum de gens. Par exemple, quand quelqu'un essaye de défendre l'homosexualité, je lui rappelle que Lévitique 18-22 dit clairement que c'est une abomination. Fin du débat. J'ai besoin de vos conseils toutefois, sur d'autres points précis de la loi et sur la façon de les appliquer. Quand je brûle un taureau en sacrifice sur l'autel, je sais que l'odeur qui se dégage est agréable au Seigneur. Lévitique 1, verset 9. Le problème, c'est mes voisins. Ils ne trouvent pas cette odeur très agréable. Dois-je les châtier? J'aimerais vendre ma sœur comme esclave, comme Exode 21, verset 7 m'y autorise. De nos jours, quel prix puis-je raisonnablement demander? Lévitique 25, verset 4 affirme que je peux tout à fait posséder des esclaves, mâles ou femelles, à condition qu'ils soient achetés dans les pays voisins. Un de mes amis affirme que ceci s'applique aux Mexicains, mais pas aux Canadiens. Pouvez-vous m'éclairer sur ce point? Pourquoi ne puis-je pas posséder des Canadiens? J'ai un voisin qui s'obstine à travailler le jour du sabbat. Exode 35, verset 2 dit clairement qu'il devrait être mis à mort. Suis-je moralement dans l'obligation de le tuer moi-même? Un de mes amis pense que même si manger des fruits de mer est une abomination, Lévitique 11, verset 10, l'homosexualité est une pire abomination. Je ne suis pas d'accord. Pouvez-vous nous aider à régler notre différend? Lévitique 21, verset 20 affirme que je ne dois pas m'approcher de l'autel de Dieu si ma vue est déficiente. Je dois admettre que je porte des lunettes pour lire. Est-ce que ma vision doit être de 20 sur 20 ou bien y a-t-il une marge de tolérance? La plupart de mes amis de sexe masculin se font couper les cheveux, y compris autour des tempes, alors que c'est expressément interdit par Lévitique 19, verset 27. Comment doivent-ils mourir? Je sais, Lévitique 11, verset 6 à 8, que toucher la peau d'un cochon mort rend impur. Puis-je quand même jouer au rugby si je porte des gants? C'est mon préféré, celui-là. Mon oncle a une ferme. Il enfreint Lévitique 19, 19 en semant deux espèces différentes dans un même champ. Et sa femme en fait autant en portant des vêtements de deux fibres différentes, coton et polyester mélangés. Il a également tendance à beaucoup jurer et à blasphémer. Est-il nécessaire d'aller jusqu'à alerter toute la ville afin qu'ils soient lapidés tous les deux? Lévitique 24, 10 à 20. Ne pourrions-nous pas tout simplement les mettre à mort par le feu et en privé, comme nous le faisons avec ceux parmi nous qui couchent avec des membres de leur belle famille? Je sais que vous avez longuement étudié tous ces cas. Aussi ai-je confiance en votre capacité à m'aider. Merci encore de nous rappeler que la loi de Dieu est éternelle et inaltérable. Votre disciple dévoué et fan admiratif, Jim. Donc cette lettre illustre bien la façon dont la loi de Dieu est en général décriée par les non-croyants, parce qu'ils y voient une ou deux choses incompréhensibles ou qui leur paraissent totalement absurdes, et par conséquent ils jettent le tout à la poubelle. Mais cette lettre que j'ai lue soulève aussi, d'une façon un peu humoristique bien sûr, des difficultés réelles en ce qui nous concerne, nous les croyants. Cette lettre illustre la difficulté que nous pouvons avoir à savoir comment lire, comprendre et appliquer cette partie de la parole de Dieu, la loi que l'on trouve ici dans l'Ancien Testament et qui nous présente des prescriptions du type de celles qui ont été citées dans cette lettre. Et comme on ne sait pas trop quoi en faire, on a peut-être tendance à ne pas trop accorder d'attention à ces passages de la Bible et en devient en quelque sorte des Marcionites, du nom d'un penseur hérétique, Marcion, qui a vécu au IIe siècle et qui estimait que le Dieu du Nouveau Testament était en fait différent du Dieu de l'Ancien Testament, et que l'Ancien Testament était en quelque sorte révoqué et remplacé par le Nouveau Testament, de sorte qu'en tant que chrétien, d'après ce Marcion, on ne devrait pas se référer à l'Ancien Testament, mais seulement et uniquement au Nouveau Testament. Et même Marcion est allé plus loin en disant qu'il y avait seulement certaines parties même du Nouveau Testament qui nous concernaient. Et franchement, combien d'entre nous sommes en fait embarrassés par certaines parties de l'Ancien Testament, notamment certaines prescriptions de la loi de Moïse? Franchement, c'est un peu embarrassant parfois, non? À quoi sert la loi de Moïse? pour les chrétiens. C'est donc une question parfaitement légitime, non seulement pour des raisons apologétiques, puisque ces objections vont être soulevées par les non-croyants, mais aussi pour des raisons liées à notre propre édification, si nous croyons vraiment que toute la Bible est la parole de Dieu. Et ces prescriptions font partie de sa parole. Donc à quoi sert la loi de Moïse pour les chrétiens? Mais aujourd'hui, en réfléchissant à cette question, je voudrais vous montrer que la loi de Moïse, comme finalement tout le reste de la parole de Dieu, la loi de Moïse sert à glorifier Dieu en nous conduisant à Jésus-Christ. Formidable! La loi de Moïse sert à glorifier Dieu en nous conduisant à Jésus-Christ. Oui, même Lévitique 11, verset 10, je cite, « Parmi toutes les bestioles aquatiques et tout ce qui vit dans l'eau, soit des mers, soit des rivières, tous ceux qui n'ont point de nageoires ni d'écailles seront abominables pour vous. » Même ce verset sert à glorifier Dieu en nous conduisant à Jésus-Christ. Amen. On prie et on conclut. Non. Alors voyons comment ça marche. La toute première chose à dire, et sur laquelle je vais insister, c'est que les commandements de la loi de Moïse ont un contexte. Les commandements de la loi de Moïse ont un contexte. Et ce contexte, c'est celui de l'alliance que Dieu conclut avec le peuple d'Israël au mont Sinaï. Donc, quand cette alliance est conclue entre Dieu et le peuple d'Israël, les Israélites viennent juste d'être libérés d'Égypte où ils étaient tenus en esclavage, et ils sont en chemin pour se rendre vers la terre promise, mais entre les deux, ils vont avoir un rendez-vous avec Dieu auprès d'une montagne qui est appelée le mont Sinaï. Et là, Moïse va agir comme un médiateur entre Dieu et le peuple. Il va faire des allers-retours entre le sommet de la montagne auprès de Dieu et puis le pied de la montagne auprès du peuple. Et pendant qu'il est en haut de la montagne, Dieu va lui communiquer des ordres, des révélations que Dieu met par écrit. Exode 24, versets 4 à 7. Moïse met ces choses par écrit. Et puis ensuite, après la construction du tabernacle, construction qui a été ordonnée par Dieu, et dont l'ordre de le construire a été lui-même consigné par écrit, par Moïse. Après la construction du tabernacle, Moïse va rencontrer Dieu aussi à cet endroit-là, au tabernacle, qui est un peu un temple portatif, si vous voulez. Et Dieu, là aussi, lui communique encore des ordres, nombre 1, verset 1, des ordres que Moïse met par écrit, et il en résulte un livre. Un livre, à la fin, qui correspond à peu près aux 5 premiers livres de notre Bible. 5 premiers livres de notre Bible, d'accord? Ce livre est appelé, dans Exode 24, verset 7, par exemple, le livre de l'Alliance. Ou dans Deutéronome 29, verset 21, ou 31, verset 26, il est appelé le livre de la loi. En hébreu, le terme, c'est la Torah, qui veut dire tout simplement la loi. Et ce livre que Moïse a écrit, donc, est déposé solennellement, une fois qu'il est fini, est déposé solennellement à côté de l'Arche de l'Alliance, dans le tabernacle, Deutéronome 31, versets 24 à 26. Ce livre de la loi, ou ce livre de l'Alliance, est déposé là, à côté de l'Arche de l'Alliance, après que l'ordre ait été donné de le lire, ce livre, au peuple, tous les 7 ans. D'accord? Donc voilà, on a une révélation, un livre que Moïse a écrit, où il a marqué tout ce que Dieu lui a révélé. Ça, c'est le livre de l'Alliance. Il doit être lu tous les 7 ans au peuple. Et donc, il est important de se rendre compte que les commandements de la loi de Moïse, comme tous ceux qui étaient cités dans cette fameuse lettre, apparaissent dans le cadre d'une œuvre complète et unifiée. L'œuvre de Moïse, si j'ose dire, d'accord? Ce n'est pas des commandements qui sont tombés par-ci, par-là, du ciel, directement auprès du peuple. Ils font partie d'une œuvre plus générale qui est unifiée. Et ces commandements participent à la fonction particulière de cette œuvre. De ce livre. Le livre de l'Alliance, c'est en quelque sorte le contrat par lequel Dieu s'engage avec le peuple d'Israël. C'est l'Alliance dont les termes sont marqués par écrit. D'accord? Ce contrat a un objet qui consiste à mettre à part les Israélites pour qu'ils appartiennent à l'Éternel et pour que l'Éternel soit leur Dieu. Ce qui correspond d'ailleurs à une promesse qui remonte loin dans l'histoire, puisqu'elle remonte à Abraham déjà, Genèse 17, verset 7. Ce contrat les 5 premiers livres de la Bible, hein. C'est un gros contrat, hein. Beaucoup d'articles, beaucoup de dispositions. Mais ce gros contrat prévoit toutes sortes de dispositions, très diverses, très variées. Mais ce gros contrat a un seul objet, qui est formidablement bien résumé dans Exode 19, versets 4 à 6, où il est dit, où c'est Dieu qui parle, qui dit « Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et fait venir vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Ça, c'est la première chose que Dieu dit à son peuple quand ils arrivent au mont Sinaï. L'idée sur laquelle je suis en train d'insister ici, c'est que le contexte dans lequel la loi de Moïse a été donnée aux Israélites montre que cette loi est unifiée par son objet, l'objet de l'Alliance. Et quel est cet objet? C'est que Dieu se rachète un peuple pour qu'il lui appartienne et qu'il le fasse connaître dans le monde. Donc la loi de Moïse, il faut garder à l'esprit qu'elle est unifiée autour d'un but, autour d'un objet, qui est l'objet de ce contrat d'alliance entre Dieu et son peuple, une alliance conclue au mont Sinaï après la sortie d'Égypte. La Torah, donc la loi, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, le livre de la loi ou le livre de l'alliance, est donc unifiée autour de cet objet. Et donc la Torah ne contient pas que des commandements. Donc ça, c'est une confusion qu'on fait souvent dans notre esprit quand on parle de la loi de Moïse ou quand le Nouveau Testament parle de la loi de Moïse. Ça ne désigne pas que des commandements. Le livre de la loi, le livre de l'Alliance, ne contient pas que des commandements. Il contient tout ce qu'il y a, à peu près, dans les 5 premiers livres de notre Bible. Il y a bien sûr des lois dans la loi. Mais dans la loi, il n'y a pas que des lois. Il y a aussi des récits historiques, il y a aussi des menaces, il y a aussi des avertissements, il y a aussi des promesses. Il y a aussi des promesses. Il y a des obligations qui incombent au peuple, mais il y a aussi des engagements que Dieu prend. C'est un contrat d'alliance. Tout ça est à considérer ensemble, parce que tout ça participe au plan que Dieu révèle à son peuple au Sinaï, ce plan qui consiste, comme on l'a dit, à mettre les Israélites à part pour la gloire de Dieu. Ce serait donc une erreur d'essayer de comprendre et d'appliquer les commandements de la loi de Moïse, du livre de la loi, sans tenir compte du reste de la loi. Vous voyez ? De comprendre et d'appliquer les commandements isolés de la loi sans tenir compte du reste de la loi avec un L majuscule, c'est-à-dire du livre de la loi, de la Torah. Parce qu'on passerait alors complètement à côté de l'objet de la loi. On pourrait, par exemple, s'abstenir de manger des fruits de mer. Parce que c'est un commandement, on le prend isolément, je ne sais pas si c'est français, mais on le prend dans la loi et on dit on l'applique. Mais si on n'a pas d'amour pour Dieu, cette abstinence des fruits de mer n'a pas de sens. Pourquoi ? Parce que la loi, qui est unifiée, quand elle est comprise dans son ensemble, eh bien elle place au sommet des exigences de Dieu l'amour des croyants pour Dieu. Ça fait partie du contrat d'alliance. C'est pour cette raison que Jésus dit « Le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu. » Deutéronome 6, verset 5, 30, verset 6, et Matthieu 22, 36 à 38. On pourrait aussi, par exemple, mettre immédiatement à mort quelqu'un qui, je cite, « fait un ouvrage le jour du sabbat ». Pourquoi ? Parce que c'est prévu dans la loi. On pourrait le faire. En tant qu'Israélite, dans l'Ancien Testament, on pourrait le faire. Mais la loi dit aussi que Dieu est compatissant. La même loi, hein. Que Dieu est compatissant, qu'il fait grâce, qu'il est lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qu'il conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qu'il pardonne la faute, le crime et le péché. C'est aussi dans la loi de Moïse, vous voyez ? Exode 34, 6 et 7. Et la loi raconte aussi, dans les récits historiques, la façon dont Dieu a exercé cette miséricorde envers son propre peuple à maintes et maintes reprises au fil de son histoire, notamment dans le désert. Donc essayer de comprendre et d'appliquer les commandements de la loi de Moïse sans tenir compte du caractère unifié de cette loi, caractère unifié des 5 premiers livres de la Bible, ce serait comme prendre un contrat quelconque. On a tous signé des contrats, un contrat de travail, contrat d'assurance, ce serait comme prendre un contrat quelconque et d'essayer d'en comprendre et d'en appliquer les dispositions indépendamment les unes des autres. tiens, aujourd'hui je vais appliquer cette petite disposition du contrat, indépendamment les unes des autres, sans tenir compte de l'objet du contrat, de l'objet qui unifie l'ensemble. Et on risquerait d'aboutir à des absurdités, hein. En tout cas, on passerait à côté du but de ces dispositions. Voyez, les commandements de la loi de Moïse ont donc un contexte. Ce contexte, c'est celui de l'alliance par laquelle Dieu se prend un peuple à part pour le sauver et pour se faire connaître. La loi tout entière, je dis bien tout entière, prise dans son ensemble, place le peuple dans l'attente de l'accomplissement de ce plan. Elle pointe en avant vers la venue d'un meilleur Moïse, d'un meilleur médiateur. C'est dans la loi, hein, Genèse 3.15, Deutéronome 18.18. La loi place des exigences devant le peuple, mais elle place aussi devant le peuple la grâce et la miséricorde du Dieu de l'Alliance. Si bien que Jésus, quand il vient, maintenant on est dans le Nouveau Testament, il va faire aux pharisiens un reproche, aux pharisiens, aux docteurs de la loi, aux spécialistes de la loi, un reproche. Il leur fait le reproche de connaître les commandements de Dieu sur le bout des doigts, mais en même temps de passer complètement à côté de l'esprit de la loi. Matthieu 5, 38 à 42, par exemple. Vous avez entendu qu'il est dit œil pour œil, dent pour dent. Et ils avaient complètement inversé l'esprit de la loi. Je vous renvoie à l'excellent message de Jonas sur ce sujet qui nous a apporté dans le cadre de la retraite de jeunes adultes. De même, il leur fait ce genre de reproche dans Matthieu 23, versets 23-28. Et après sa résurrection, Jésus explique même à ses disciples que la loi de Moïse, parle de lui et de son œuvre. Luc 24, verset 27, ou Luc 24, versets 44 à 47. J'ai été un peu long sur ce point, parce que c'est en fait un point fondamental. Il faut absolument garder à l'esprit cette idée du caractère unifié de toute la loi de Moïse, c'est-à-dire de tout ce livre de l'Alliance, qui a un objet précis. Cet objet, c'est la rédemption d'un peuple pour la gloire de Dieu par l'œuvre du Messie. Ça, c'est l'objet du contrat. D'accord ? C'est ce qui unifie le livre de l'Alliance et tous les commandements qu'il contient. La loi de Moïse sert donc à glorifier Dieu en nous conduisant à Jésus-Christ. Ça, c'est l'esprit de la loi, vous voyez, c'est l'esprit de la loi de Moïse, de glorifier Dieu en nous conduisant vers le Messie. Maintenant, regardons un peu plus en détail ce qu'on appelle communément la loi de Moïse, mais en fait, qu'on ne devrait pas appeler la loi de Moïse, on devrait plutôt appeler ça les commandements que contient la loi de Moïse. Vous avez suivi ? Donc, je l'ai dit, la loi est unifiée, et donc, ça va, vous n'entendez pas trop, j'avais dit que ce serait barbant. Hein. La loi est unifiée, là j'emploie le terme de loi avec un... Juste une précision, quand je dis la loi ou la loi de Moïse, sans ajouter de précision ou d'attribut, je parle des cinq premiers livres de la Bible, pour faire simple, d'accord ? Je parle de la Torah. Parce que c'est comme ça que la Bible en parle elle-même. C'est-à-dire ce livre de l'Alliance, ce livre de la loi qui ne contient pas que des commandements. Donc cette loi, ce livre est unifié, donc les commandements qu'il contient sont aussi unifiés. On ne peut pas les séparer les uns des autres. Ils ont tous été donnés dans un livre unique, le code de l'Alliance, si j'ose dire. Ces commandements étaient destinés au peuple de Dieu afin que le peuple les mette en pratique, notamment une fois installé en terre promise. Mais comme le peuple d'Israël, à son époque, à l'époque de l'Ancien Testament, représentait à la fois une communauté d'hommes, un état politique et une religion particulière, eh bien, les commandements de Moïse s'appliquent par conséquent à ces trois aspects de la vie d'Israël. On pourrait dire que les commandements de Moïse sont unifiés en un seul code, mais qu'ils existent en trois dimensions. J'oserais pas faire de parallèle avec la Trinité. Ce serait abusif. Les commandements de Moïse, donc, sont unifiés en un seul code, mais ils existent en trois dimensions. Dimension morale, dimension civile et dimension cérémonielle. Ce ne sont pas des catégories, si vous voulez, où l'on pourrait classer soigneusement chaque commandement de la loi. On lit un commandement, on dit, tiens, celui-là, il va dans la catégorie loi civil. Tiens, celui-là, il va dans la catégorie loi cérémonielle, etc. Parce que parfois, ces catégories s'entrecoupent ou se confondent. Par exemple, je prends un exemple, ça va vous aider. Lévitique 17, versets 1 à 9. C'est un passage. Merci beaucoup, Jésus. Lévitique 17, versets 1 à 9, c'est un passage qui interdit aux Israélites d'offrir des sacrifices ailleurs qu'au temple. En tout cas, dans un premier temps, au tabernacle, avant que le temple soit construit. Donc, loi cérémonielle. On n'a pas le droit d'offrir des sacrifices ailleurs qu'au temple. Loi cérémonielle, on est d'accord? Mais la raison qui est donnée dans ce passage, c'est qu'un sacrifice offert ailleurs qu'au temple équivaut à de l'idolâtrie. L'idolâtrie est interdite. Loi morale. Et la conséquence, c'est que la personne qui désobéit est retranchée du peuple, déchue de sa nationalité ou mise à mort. Loi civile. Vous voyez comment les trois dimensions s'entrecoupent ou se confondent parfois. Mais la distinction néanmoins entre ces trois dimensions est essentielle pour bien comprendre la portée des divers commandements de la loi. Autrement dit, pour bien faire l'exégèse, l'interprétation des commandements que contient la loi, que contient cette partie de notre Bible. Alors commençons par la dimension morale des commandements, d'accord? Souvent, cette dimension morale des commandements est évidente. Par exemple, quand on lit les 10 commandements, c'est évident. Mais parfois, c'est moins évident. Mais on peut néanmoins discerner la dimension morale d'un commandement sans trop de difficultés, comme dans le cas ci-dessus que je viens de donner avec l'idolâtrie. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'offrir un sacrifice ailleurs qu'au temple? Parce que ça équivaudrait à de l'idolâtrie. Bon, on a discerné la dimension morale de ce commandement. Interdiction de l'idolâtrie. Mais quand ce n'est pas si évident, on peut toujours se poser la question suivante. En quoi cette prescription est-elle l'expression de la volonté morale de Dieu? Et comment se rapporte-t-elle aux 10 commandements? En quoi cette prescription est-elle l'expression de la volonté morale de Dieu et comment se rapporte-t-elle aux 10 commandements? Par exemple, la loi de Dieu dit que celui qui maudit son père ou sa mère doit être puni de mort. Lévitique 20, verset 9. La peine de mort représente la dimension civile de la loi. Mais la dimension morale, c'est celle qui se rapporte aux 10 commandements, au 5e commandement pour être plus précis. Honore ton père et ta mère, vous voyez, dimension morale. C'est l'expression de la volonté morale de Dieu et on est capable d'en faire, de se reporter aux 10 commandements. Autre exemple, la loi de Dieu dit que celui ou celle qui couche avec un animal doit être puni de mort. Encore une fois, la peine de mort représente la dimension civile de la loi. On est d'accord? Mais où trouve-t-on la zoophilie dans les 10 commandements? Ben en fait, c'est une application du 7e commandement. Tu ne commettras pas d'adultère. Qui est une façon de dire, en fait, tu honoreras le mariage. Le mariage est inscrit dans les 10 commandements, vous voyez? Honorer le mariage exclut de fait toute relation préconjugale, extra-conjugale, homosexuelle, pédophile ou zoophile. Donc ce genre de raisonnement, ce genre de question peut nous aider à discerner quelle est la dimension morale des commandements que contient la loi de Moïse. La dimension morale de ces commandements est en effet immuable, est immuable, parce que la volonté morale de Dieu est immuable. Cette loi morale de Dieu est demeurée une parfaite règle de justice, pour citer notre confession de foi, je la cite encore, elle oblige à l'obéissance pour toujours tous les hommes, qu'ils soient ou non justifiés, c'est-à-dire qu'on soit ou non croyant. La loi morale de Dieu, la volonté morale de Dieu est immuable et elle oblige tout le monde à l'obéissance. Donc la loi morale de Dieu s'applique à nous les chrétiens. Elle nous montre les obligations morales auxquelles nous sommes soumis. Mais quel effet cela est-il censé avoir sur nous? Donc vous lisez le texte, vous dites, ouais, tiens, prescription, commandement, tiens, je vois la dimension morale de ce commandement, l'expression de la volonté morale de Dieu qui est immuable, ça s'applique à moi. Je suis obligé d'obéir. Quel effet est-ce que c'est censé avoir sur nous? Bien heureusement pour nous, l'apôtre Paul en parle de façon assez explicite dans 1 Timothée 1, 5 à 15. Il dit ceci. Le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Quelques-uns, s'en étant détournés, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Nous savons bien que la loi est bonne. Et ici, le contexte nous permet de comprendre qu'il parle de la loi morale de Dieu. Nous savons bien que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, et qu'on sache que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les indisciplinés, les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanes, les parricides et les matricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures, pardon, et tout ce qui en outre est à l'opposé de la saine doctrine, d'après le glorieux évangile du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, le Christ Jésus notre Seigneur, de ce qu'il m'a estimé fidèle en m'établissant dans le service, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté, mais il m'a été fait miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Christ Jésus. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis moi le premier. Donc dans ce passage, Paul il dit que la loi morale est bonne à condition qu'on en fasse un usage légitime. Et il y a un petit jeu de mots là, parce que légitime, ça veut dire selon la loi. Donc la loi est bonne à condition qu'on l'utilise selon elle-même, selon la loi, selon son esprit, en sachant que la loi, dit-il, n'est pas faite pour le juste, mais pour les injustes. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, j'ai déjà prêché sur ce texte il y a quelques années. Vous pouvez aller sur le site internet, écouter la prédication si vous voulez un exposé plus complet de ce passage. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Paul est en train de dire qu'une des principales raisons d'être de la loi morale, c'est le péché. À quoi sert par exemple la limitation de vitesse sur l'autoroute ? Elle n'est pas là pour ceux qui roulent à 110, mais elle est là pour ceux qui roulent à 150, la limitation de vitesse à 130. Vous voyez ce que je veux dire ? Le but de la limitation de vitesse n'est pas de révéler à ceux qui roulent à 110 qu'ils sont en train de bien faire. Le but de la limitation de vitesse est de révéler à ceux qui roulent à 150 qu'ils sont en train de mal faire. Si tout le monde conduisait avec une parfaite prudence et une parfaite courtoisie, le code de la route n'aurait aucune raison d'être. C'est vrai ? Si tout le monde était parfaitement altruiste, aimable et généreux, même le code pénal n'aurait pas de raison d'être. Et donc, de la même façon, Dieu a donné sa loi pour montrer aux hommes ce qu'ils font de mal, pas pour leur montrer ce qu'ils font de bien. Le problème des docteurs de la loi, dans le texte et dans le contexte de Paul, quand il écrit à Timothée, le problème de ces docteurs de la loi, ces prétendus spécialistes de la loi de Dieu, leur problème, c'est le même que celui des pharisiens dans les évangiles, dont parle Jésus. C'est qu'ils utilisent la loi de Dieu, la loi morale de Dieu, pour se glorifier plutôt que pour s'humilier. Ils voient donc la limitation de vitesse sur le bord de la route et ils en tirent une grande fierté. Ils bombent le torse. Ouais, nous, on roule en dessous de la limitation de vitesse, on est trop fort. Ils s'arrêtent au feu rouge à chaque fois et même au feu orange. D'ailleurs, ils sont contents de l'opportunité de montrer qu'ils sont honnêtes et droits. Ça leur fait du bien. Ils lisent le code pénal tous les soirs avant de se coucher afin d'en connaître toutes les plus petites subtilités. Et ils s'endorment en pensant à leur incroyable intégrité morale. Autrement dit, ils voient dans la Bible les instructions de Dieu concernant le culte, les prières, le sabbat, la dîme, l'aumône. Et alors le sentiment de leur propre justice ne fait qu'enfler de plus en plus. Ce sont les pharisiens du Nouveau Testament. Mais pour Paul et pour Jésus, ces gens-là sont en fait en train de pervertir ou de détourner la loi morale de Dieu. Ils pervertissent cette loi morale de Dieu parce qu'elle n'est pas faite pour ça. La loi morale de Dieu n'est pas là pour nourrir le sentiment de justice des hommes, mais bien au contraire pour révéler aux hommes leurs propres péchés. Et Jésus a remis les pendules à l'heure dans ce fameux sermon sur la montagne quand il montre que les exigences de la loi morale de Dieu, en fait, dépassent de loin même ce que le plus zélé des pharisiens pouvait accomplir. Hein, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il suffit, d'après Jésus, de se mettre en colère contre son frère pour être passible du jugement réservé au meurtrier. Il suffit de regarder une femme avec convoitise pour se rendre coupable d'adultère avec elle dans son cœur. Vous voyez donc que la loi morale de Dieu est là pour nous humilier et pas pour nous glorifier. La loi morale de Dieu est là pour révéler notre péché, pour nous montrer que nous appartenons non pas à la catégorie des justes, mais bel et bien à la deuxième catégorie de personnes dont il est question ce texte, en compagnie des meurtriers, des trafiquants d'esclaves, des terroristes et des pédophiles. Mais, tout de suite après, c'est pour ça que j'ai lu le texte jusqu'au verset 15, tout de suite après, Paul s'empresse de parler d'une bonne nouvelle, de l'évangile. Dans le raisonnement de Paul, la mauvaise nouvelle de la loi qui révèle notre péché, qui est là pour nous, qui sommes des meurtriers, des méchants, des menteurs, des trafiquants d'esclaves, la mauvaise nouvelle de la loi qui révèle notre péché met en perspective la bonne nouvelle de l'évangile, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et c'est ce qu'il dit au verset 15, c'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi le premier, dit l'apôtre Paul. Vous voyez, dans quelle catégorie est-ce que Paul se met ? Il se met dans la catégorie des justes ou des méchants ? Dans la catégorie des méchants. Il se place parmi les pécheurs dont, dit-il, il est le premier. Mauvaise nouvelle pour Paul, mais Paul ajoute que Jésus est venu dans le monde pour prendre sur lui le châtiment qui est réservé aux pécheurs. C'est une parole digne d'être entièrement reçue, dit-il. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, le seul juste, est mort sur la croix à la place des pécheurs. Dieu a déversé sur Jésus par amour pour nous toute sa sainte colère contre les péchés qui ont été révélés par sa loi morale. Les péchés, aussi ignobles soient-ils, les péchés des hommes, des femmes et des enfants qui placent leur confiance en lui. Mais comment comprendre, croire et apprécier ce que Jésus a fait si la loi morale de Dieu n'était pas là d'abord pour mettre en lumière notre péché et notre culpabilité ? La loi morale de Dieu est bonne, elle s'applique à nous, on n'échappe pas à ses exigences, on n'échappe pas aux obligations morales qui sont les nôtres en raison de cette loi. Mais face à ces commandements que nous lisons, peut-être que vous lisez le matin, avant de démarrer votre journée, vous ouvrez votre Bible, vous lisez un peu de l'Exode, un peu du Deutéronome. Face à ces commandements, il y a la tentation de se dire, bon, la loi de Dieu me montre ce que je dois faire pour être une bonne personne. Alors j'obéis. Je vais démarrer ma journée comme ça. La loi de Dieu me montre ce que je dois faire pour être une bonne personne. Alors j'obéis. Ouais, ça a l'air pas mal comme attitude. Mais ce n'est pas tout à fait l'usage légitime de la loi morale de Dieu selon Paul dans ce passage. Parce que ce raisonnement court-circuite l'évangile. Et en fait, ce raisonnement va jusqu'à dénaturer le christianisme quelque part. Ce qu'il faut plutôt se dire, et ce que vous allez vous dire la prochaine fois que vous lisez les commandements de Dieu, la prochaine fois que vous discernez la dimension morale de telle ou telle prescription de la loi de Moïse, ce que vous vous direz, c'est plutôt la loi de Dieu, la loi morale de Dieu me montre quel est mon péché, afin de me conduire à Jésus, qui m'invite à la foi, dont procède l'amour qui à son tour motive mon obéissance à Dieu. Et là, vous n'avez pas court-circuité l'évangile, vous voyez ? Donc il faut apprendre ça par cœur. Le répéter comme un mantra, non, ne me citez pas. La loi de Dieu me montre quel est mon péché afin de me conduire à Jésus qui m'invite à la foi. Et de cette foi procède l'amour qui à son tour motive mon obéissance à Dieu. En fin de compte, vous obéissez, enfin vous avez envie en tout cas d'obéir, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons. Vous voyez que la loi de Moïse, dans sa dimension morale, sert à glorifier Dieu en nous conduisant à Jésus-Christ. Et pour finir, je vais passer plus rapidement sur les deux autres dimensions des commandements contenus dans la loi de Moïse. D'abord, la dimension civile. Alors, comment discerner la dimension civile des commandements contenus dans la loi de Moïse ? Eh bien, on peut se poser la question suivante. Est-ce que ce commandement implique le recours à l'autorité civile ou politique d'Israël? Est-ce que ce commandement implique le recours à l'autorité civile ou politique d'Israël? Et cette autorité civile ou politique est normalement représentée dans la loi de Moïse par les anciens du peuple. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé un petit peu de ça quand on avait fait notre série d'exposés sur les anciens, mais à l'époque du peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, il y avait les anciens du peuple, ou les anciens de la ville, qui occupaient une fonction particulière, et ce n'était pas la même que celle qu'occupaient les prêtres. Donc vous voyez, les fonctions religieuses et civiles étaient bien distinctes en Israël. Donc quand vous lisez les commandements, posez-vous cette question. Est-ce que ces commandements impliquent le recours aux anciens, à l'autorité civile? Les lois concernant le mariage, par exemple, dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, sont habituellement encadrées par les anciens et pas par les prêtres. C'est les anciens qui entérinent, qui prononcent le mariage dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas les prêtres. La loi prévoit, par exemple, qu'un père qui vient de donner sa fille en mariage, ce père doit, dans certains cas, produire, je cite, les signes de la virginité de sa fille devant les anciens de la ville, à la porte, notamment lorsque cette jeune femme est diffamée par son nouveau mari qui prétendrait qu'elle n'était pas vierge au moment du mariage. Vous avez tout suivi. Deutéronome 22, 13 à 21. Est-ce qu'il faut faire la même chose aujourd'hui? Non, bien sûr. Il en est de même de la possession d'esclaves, qui est citée dans la lettre que j'ai lue en introduction. La possession d'esclaves est strictement régulée, d'abord, dans la loi de Moïse, et elle est encadrée par l'autorité politique ou civile. Est-ce que parce qu'il est question d'esclaves dans la loi de Moïse, ça veut dire que nous, on peut avoir des esclaves? Ben non. Westminster, la confession de foi de Westminster dit ceci: Dieu a donné au peuple d'Israël comme code politique diverses lois judiciaires qui vinrent à expiration en même temps que le peuple juif cessait d'être un État. Ces lois n'obligent personne maintenant, au-delà de ce que l'équité générale qui s'y trouve peut exiger. Mais en même temps, quand on lit ces lois et qu'on discerne la dimension civile de ces lois, ce qui est important de faire, c'est de remarquer la façon dont Dieu a voulu qu'il existe en Israël une autorité politique, et pas seulement une autorité religieuse. Il a voulu qu'il y ait une autorité politique en Israël. Cette autorité, comme je l'ai dit, était confiée aux anciens, puis ensuite elle a été confiée, ou elle a été un peu, comment dire, incarnée par le roi, quand il y a eu un roi plus tard. L'autorité politique existait en Israël en quelque sorte comme le bras de Dieu pour punir le mal, à travers les dispositions donc judiciaires. Mais aujourd'hui, vous le savez bien, le peuple de Dieu que nous sommes, en tant qu'Église, n'existe pas sous la forme d'un État. Et malgré tout, nous sommes toujours soumis à une autorité politique en tant que peuple de Dieu. Je dis bien, en tant que peuple de Dieu, nous sommes soumis à une autorité politique commune qui est celle de Jésus, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui a été élevé au-dessus de tout ce qui existe. C'est lui notre juge, c'est lui notre roi, c'est lui notre bon berger, c'est lui notre ancien, au sens le plus fort du terme. Et il exerce toujours son autorité dans son Église, mais par le moyen de sa parole, sous l'effet de son esprit, et par l'intermédiaire notamment des anciens de l'Église. Ce n'est pas une autorité civile proprement dite, donc les anciens n'appliquent pas les dispositions civiles de la loi de Moïse, mais ils en exercent néanmoins certains principes, comme, je vous donne un exemple un peu emblématique, mais il ne faut pas en tirer des raccourcis, trop de raccourcis, mais par exemple, le conseil d'église peut exercer ce qu'on appelle l'excommunication, qui consiste à retrancher quelqu'un du peuple de Dieu. Exactement comme les anciens pouvaient le faire dans l'Ancien Testament, retrancher quelqu'un du peuple de Dieu. On ne les met pas à mort, mais on les met un peu à mort spirituellement en les livrant à Satan. Enfin, désolé d'utiliser ces termes qui sont des termes du Nouveau Testament. Vous voyez ? Il y a des parallèles néanmoins là. Dieu a voulu quand même qu'il y ait cette autorité qui soit exercée, que son peuple soit sous une autorité. Par ailleurs, les croyants sont toujours soumis, mais cette fois en fonction des lieux où ils sont, à des autorités civiles, même si ce ne sont pas des autorités confessantes, c'est-à-dire des autorités chrétiennes. On est quand même soumis à des autorités civiles, eh ben, le président de la République, par exemple. Et le Nouveau Testament dit clairement que les chrétiens doivent se soumettre à ces autorités qui ont été instituées par Dieu. Le Nouveau Testament nous dit qu'il faut qu'on se soumette à ces autorités par motif de conscience, Romains 13, verset 1 à 7, et à cause du Seigneur, on doit s'y soumettre, 1 Pierre 2, verset 13 à 17. Donc vous voyez, la dimension civile de des commandements contenus dans la loi de Moïse nous rappelle donc que Dieu a voulu que son peuple soit soumis à une autorité politique, une autorité par définition qui gouverne la vie de la cité, c'est ça que ça veut dire, une autorité politique, c'est-à-dire, au fil de son histoire, à des anciens, à des gouverneurs, à des rois, à des juges qui défendent le bien et qui punissent le mal. Dieu l'a voulu, ça. Il a voulu que ce soit, que ça marche comme ça. Cette autorité, nous le savons avec, de façon rétrospective, nous qui avons le Nouveau Testament, nous savons que cette autorité repose en fin de compte sur Jésus. Il est roi, il est seigneur, il est juge. Et il jugera le monde, hein, acte 17, verset 31. Et il jugera le monde à commencer par son Église, 1 Pierre 4, verset 17. Donc vous voyez donc que la loi de Moïse, même dans sa dimension civile, sert à glorifier Dieu en nous conduisant à Jésus-Christ. Elle ne nous incite pas à observer toutes les dispositions civiles de la loi, mais elle nous incite, la loi de Moïse, à voir en elle, dans ses dispositions civiles, le signe que Dieu a institué des autorités auxquelles nous devons à notre tour être soumis. L'autorité de Jésus, l'autorité de notre gouvernement et l'autorité de l'Église. Et pour vous achever, la dimension cérémonielle des commandements contenus dans la loi de Moïse. Comment discerner la dimension cérémonielle de ces commandements ? On peut se poser la question suivante. Est-ce que ce commandement concerne le culte au temple, le calendrier liturgique, les prescriptions alimentaires, la pureté, l'impureté, la séparation du monde païen ou de manière générale le service des prêtres. Je vais vous donner quelques exemples. Colossiens 2, versets 16 à 17. Ici, on s'appuie beaucoup sur le Nouveau Testament. Que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat, sabbat au pluriel. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle de Christ. Paul, il est en train de dire ici que ce type de commandement, cette dimension cérémonielle de la loi, préfigurait l'œuvre, avait pour but de pointer vers Jésus. Et oui, préfigurait en quelque sorte la réalité de Christ qui serait manifestée quand Christ viendrait. Hébreux dit aussi très clairement que le culte du temple dans l'Ancien Testament préfigure l'œuvre de Jésus. Hébreux 9, versets 9 et 10 par exemple, l'auteur dit ceci. Le Saint-Esprit montrait que l'accès du Saint des Saints n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps présent. Elle signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent mener à la perfection, sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Ce sont là, donc il fait référence au culte au temple, du temple, donc dans l'Ancien Testament, ce sont là des ordonnances charnelles, relatives seulement à des aliments, des boissons et diverses ablutions et imposées jusqu'à un temps de réforme. On aime bien ce mot chez nous. Et Paul ajoute aussi dans un autre passage, Éphésiens 2, verset 15, que les dispositions de la loi qui manifestaient la séparation entre les Juifs et tous les autres, que ces dispositions-là ont été même, écoutez bien, annulées. Par Jésus. Éphésiens 2, verset 15. Jésus a, dans sa chair, annulé la loi. Alors, vous voyez, il ne faut pas se tromper sur ce qu'il veut dire par la loi. Hein. Le contexte nous permet de comprendre qu'il parle de la dimension cérémonielle de la loi de Moïse ici. Hein. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme nouveau en faisant la paix. Il parle de ce mur de séparation qui séparait les Juifs et tous les autres de l'autre côté. Cette séparation spirituelle, on pourrait dire. Donc ce serait sans doute très passionnant, je ne vais pas le faire, mais ce serait sans doute très passionnant d'étudier toutes les lois cérémonielles contenues dans la loi de Moïse et de le faire dans la perspective de la venue et de l'œuvre de Jésus. D'accord ? Si vous voulez prêcher une série de prédications sur le Lévitique, faites-le en appliquant les principes qu'on est en train de voir dans le cadre de l'atelier prédication. Normalement, vous devriez pouvoir ensuite étudier tout ça dans la perspective de la venue et de l'œuvre de Jésus. Mais on n'a pas le temps, ni franchement le désir de le faire pour l'instant. Mais il est vrai que les dispositions relatives au sacrifice, par exemple, dans l'Ancien Testament, nous parlent du sacrifice parfait et suffisant de Jésus. Ça, c'est une évidence pour nous chrétiens aujourd'hui. Oui, les sacrifices de l'Ancien Testament, dispositions cérémonielles de la loi, nous parlent du sacrifice parfait de Jésus. Les dispositions relatives à la distinction entre le pur et l'impur dans la loi nous parlent de la réconciliation du monde opérée par Jésus. Jésus a vaincu le monde, Éphésiens 1, verset 10. Jésus a vaincu le monde, il s'est assis à la droite de Dieu, au-dessus de tout ce qu'il a créé, si bien que maintenant, d'après Paul, dans un autre passage, eh bien, rien n'est à rejeter dans l'alimentation, sous-entendu, rien n'est à rejeter, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. 1 Timothée 4, 4 et 5. Grâce à Jésus, nous avons une grande liberté dans ce monde que lui-même a créé. Et non seulement il l'a créé, mais après que le monde soit déchu, il a reconquis le monde. Et il en est le roi suprême. Donc la prochaine fois que vous mangerez des fruits de mer, souvenez-vous, d'accord, que si vous pouvez le faire, c'est parce que Jésus a vaincu l'impureté de ce monde. Il a touché le lépreux, et ce n'est pas Jésus qui a contracté la lèpre, c'est le lépreux qui a été purifié et guéri. C'est pour ça que vous pouvez manger des fruits de mer, parce que Jésus a vaincu l'impureté de ce monde. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière, pour ceux qui sont croyants et qui appartiennent à Jésus. Donc vous voyez, pour conclure, la loi de Moïse sert à glorifier Dieu en nous conduisant à Jésus-Christ. D'abord en raison de son contexte. La loi de Moïse, c'est le contrat d'alliance que Dieu a conclu avec son peuple au Sinaï, un contrat qui pointait en avant vers la personne et l'œuvre de Jésus. Toute la loi, donc, dans tous ses aspects, doit être lue, comprise et appliquée dans la perspective de la venue et de l'œuvre de Jésus. Aujourd'hui, le chrétien lit la loi et il en discerne ses dimensions morales, civiles et cérémonielles. Et chacune de ces dimensions lui parle de Jésus et de ce qu'il a fait par amour pour son peuple et de ce qu'il continue de faire.